autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation, pour nous interroger sur nous-mêmes aujourd'hui, en revisitant la plus ancienne et la plus existentielle des questions philosophiques. Qui suis-je? Un esprit dans un corps ou un corps dans un esprit? Comment les sciences cognitives peuvent-elles éclairer d'un jour nouveau ce vieux débat philosophique autour de la conscience de soi, de la conscience du corps et même de la conscience des autres? Après avoir longtemps, trop longtemps, privilégié l'esprit sur le corps, et comme en réaction, notre époque accorde désormais la primauté au corps dans le développement personnel. Pourquoi et surtout comment sortir de cet éternel dualisme corps-esprit qui nous colle à la peau? Comment intégrer que l'un ne va pas sans l'autre, voire même sans les autres? Autant d'interrogations ouvertes par notre invité, la philosophe Frédérique de Vignemont, dans un essai à contre-courant déstabilisant et inspirant, Désenchanter le corps, aux origines de la conscience de soi, paru chez Odile Jacob et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert, autour de la question « Le corps est-il dans l'esprit ou l'esprit est-il dans le corps ?» Bienvenue non pas pour trancher dans le vif, mais plutôt pour démystifier la toute-puissance du corps sur l'esprit et vice-versa. Et c'est l'humoriste Anne-Sophie Gérard, autrice d'Un esprit bof dans un corps pas ouf, qui ouvre le bal.
Un esprit sain dans un corps sain, j'adore cette phrase, qui me culpabilise toujours autant dès que je l'entends, parce que tu as envie de te dire, bah, pas moi, alors je suis une merde, c'est ça? Ben non, je peux aussi avoir des fois un esprit bof dans un corps pas ouf. Être la meilleure version de soi-même. Hey. Ben c'est pas vraiment possible. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Il faut souffrir pour être belle. Je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Parce qu'on remarquera déjà qu'elle n'est pas au masculin. C'est marrant, je ne sais pas quoi c'est dû. Une erreur de frappe, sans doute. Quand on veut, on peut. Ben, je vais spoiler, mais c'est faux. C'est pas parce qu'on veut qu'on peut. Si je veux être une licorne, en réalité, je ne pourrais pas être une licorne. Le risque de cette phrase, c'est que ça nous donne trop de responsabilités, trop grosse pression. Parce que si on peut pas, si on n'y arrive pas, ben ça sous-entend que c'est entièrement notre faute. Et c'est pas le cas.
Bonjour Frédérique de Vignemont.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir en direct pour tenter donc d'y voir un peu plus clair entre toutes ces injonctions contradictoires grâce à votre œil aiguisé de chercheuse en philosophie et en sciences cognitives. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut Jean Nicot. Vos recherches portent principalement sur la conscience de soi, la conscience du corps. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob un essai détonnant, Désenchanter le corps, sous-titré Aux origines de la conscience de soi. Alors pourquoi, Frédérique de Vignemont, faudrait-il aujourd'hui désenchanter le corps? Parce qu'on lui en demande trop? C'est notre corps aujourd'hui, contrairement à l'esprit autrefois, qui est responsable de notre bien-être, non seulement physique mais aussi mental.
Alors oui, ce que j'ai constaté, moi, c'est qu'il y avait ce rapport très paradoxal que nous avions en ce moment avec le corps. À la fois, ça devient une sorte de héros qui va régler tous nos problèmes. Et c'est pas seulement qu'il faut être en bonne santé, mais c'est vraiment, on espère que par certaines pratiques, en faisant attention à son corps, en des questions de pleine conscience de soi, ou de méditation, ou de yoga, on va arriver à résoudre tous nos problèmes. Or, on vit dans une société très anxiogène, avec de nombreux problèmes. Donc c'est vrai qu'on cherche des échappatoires, des solutions, et le corps devient le mot-clé et donc est accommodé à toutes les sauces dans un grand nombre de, aussi bien dans les magazines grand public que ça va être en sciences cognitives, on en parlait, ou encore ça va être aussi dans les films, dans tout ça, il y a cette mentalité, voire même maintenant ça devient dans le marketing où c'est le corps qui devient le sauveur de l'humanité. Et à côté de ça, il y a ce rapport où le corps finalement c'est le laisser pour compte. Mmh. Qu'on peut constater dans les médias sociaux où on envoie des textos plutôt que de s'appeler, mmh. Où on va être maintenant, c'est le règne du télétravail, où on n'est plus physiquement présent avec les gens, où on est dans des jeux vidéo, où là, on incorpore d'autres avatars sans se soucier qu'ils nous ressemblent ou quoi que ce soit. Et donc, on passe tout le temps de l'un à l'autre, de ce ce corps, ce héros, a ce dédain total du corps. On change de corps pour opter pour un corps virtuel, comme on pourrait changer de chemise.
On est très paradoxal avec notre corps et ça ne date pas d'hier. Alors longtemps, en philosophie, comment dire, ça a été un peu le contraire. C'était l'esprit qui était le maître et le corps absolument subalterne. C'est toujours un peu enseigné comme ça, comme vous allez l'entendre tout de suite, Frédéric, dans cette question soulevée par Clément Tournigan, qui était en stage avec nous récemment.
J'ai appris en cours de philo au lycée, il y a très peu d'années pour moi, que le corps trompe l'esprit. Alors, je me demandais s'il faut oublier son corps pour réfléchir.
Votre réponse, Frédéric de Vignemont.
Alors, le corps trompe l'esprit, ou j'ai l'impression aussi que l'esprit trompe beaucoup le corps, donc c'est dans les deux sens.
Les deux sont vrais.
Alors, c'est vrai qu'il y avait un peu dans l'image, si on revient dans l'histoire de la philo, Descartes, on est tous un peu passés par là, et il y a cette espèce de notion de connaissance de soi parfaite, transparente, on sait vraiment qui on est. Pour Descartes, c'était la seule personne qu'on pouvait vraiment être sûr de savoir qui nous étions, c'était vraiment le côté de la pensée. C'était le fameux « je pense comme je suis », parce que le corps, ça pourrait être qu'une illusion. Donc, il y avait cette idée-là. Mais en fait, et c'est vrai, on s'en aperçoit quand on discute avec des psychiatres ou des neurologues, qu'il y a de nombreux cas où le corps est illusoire et il nous trompe. Justement, le cas le plus frappant et le plus connu, c'est probablement celui des membres fantômes, donc des personnes qui sont amputées et qui continuent à ressentir la présence de ce membre comme étant là et qui ça peut durer pendant des décennies. C'est pas juste après l'amputation, ça peut être des décennies. Mais des cas encore plus frappants, moi je trouve, c'est ces patients qui, après une lésion du cerveau, donc par exemple après un AVC, vont avoir l'impression que leur main ne leur appartient pas. Donc elle est toujours là, elle n'est pas du tout amputée, mais cette main-là, qui est à la continuité de leur corps, pour autant, ils vont dire « non, ce n'est pas ma main ». Ils vont essayer de s'en débarrasser, ils vont demander qu'on l'enlève. Pour eux, ce n'est pas leur main. Et cette rupture, effectivement, du corps et de l'esprit est absolument fascinante. Donc oui, le corps peut nous tromper, mais à l'inverse, est-ce que c'est le corps qui trompe l'esprit? Est-ce que c'est l'esprit et le corps qui se trompent mutuellement? C'est difficile de dire. En fait, la question n'a pas beaucoup de sens, d'une certaine manière, parce que les deux travaillent ensemble.
C'est ça. Et pour penser, il faut un corps, on pense dans un corps. Et pour bouger, il faut aussi avoir un cerveau qui pense ou qui se représente notre corps, qui cartographie notre corps. Et comme vous dites, quand c'est pas dysfonctionnel, qu'il cartographie à peu près comme il est.
Voilà, c'est ça. Mais c'est en même temps, il faut, pour bouger, on a besoin de cet esprit. Mais il faut pas que l'esprit réfléchisse trop à ce qu'il fait.
Et bien
parce
sûr.
Parce que c'est là où on devient très très maladroit. Moi, je sais que si vous mettez à réfléchir la manière de vous descendre les marches d'un escalier,
et c'est foutu.
Bah vous êtes foutu. Si vous commencez, et c'est là où on voit toute la difficulté de l'apprentissage, quand on apprend par exemple à jouer de la guitare ou du piano, là on est très concentré. Mais tout le but du jeu, c'est d'arriver à l'oublier le corps. C'est là où on se dit, ça y est, j'ai vraiment appris à jouer, maintenant je sais, je maîtrise. C'est quand j'ai oublié mon corps qu'on se dit, je maîtrise.
Et il faut oublier son corps comme il faut aussi peut-être oublier son esprit. Enfin, je veux dire, ça marche dans les deux sens.
On pourrait dire qu'il faut s'oublier soi-même. Aussi bien corps et esprit. Donc, je reprends mon exemple de la musique. Vous êtes en train de jouer d'un instrument. Vous vous immergez dans la musique, dans le rythme, dans tout ça. Est-ce que vous êtes en train de faire une sorte de... Vous regardez vous-même ou de vous écouter vous-même en train de jouer? Non, ça casse tout. Vous n'êtes plus dans la musique. Donc, c'est là où, effectivement, on se laisse de côté soi-même pour se focaliser sur l'activité. Cette activité, c'est une activité qui est ancrée dans le monde.
Mais alors, pourquoi, du coup, est-ce qu'on a tant de mal? Puisque, on vous comprend bien, finalement, il s'agit, je ne sais pas si c'est de réconcilier le corps et l'esprit, mais de comprendre que ça marche ensemble et que ce n'est pas en ne mettant l'accent que sur notre corps ou que sur notre esprit que ça va fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette dualité, dans ce paradoxe? Enfin, pourquoi on sépare autrefois l'esprit en avant, aujourd'hui peut-être le corps en avant?
On aime bien mettre les choses dans des petites cases. Et c'est vrai que le côté s'intéresser à son corps, d'une certaine manière, et laisser de côté l'esprit, c'est peut-être que c'est après des décennies de psychanalyse, encore et encore jusqu'à un abus total, ou qui a accompli certains résultats, mais pas autant que certains espéraient, que maintenant on se dit bon, on va chercher une nouvelle méthode et on arrête de réfléchir et de décortiquer ses pensées, ses rêves, ses émotions. Maintenant, on va juste faire du body scanning et là, ça va se focaliser.
Alors, du body scanning, c'est ressentir ce qui se passe dans le corps et voilà. N'être plus qu'à l'écoute de ce qui voilà. se passe dans le corps.
Et là, on se dit bon, ça c'est une autre solution. On a essayé une solution, on en essaye une autre. C'est un petit peu comme un politique. Hein. On voit bien comme il y a ce côté, bon, on a essayé quelque chose, ça n'a pas marché. On part à totalement l'effet inverse pour voir si ça marche plus. Alors, le problème, bien entendu, c'est que ça n'a pas plus de chances de marcher dans un extrême que dans l'autre. Hein.
Et c'est ça. Que... Et c'est ce qu'on va voir tout de ouais. suite, hein, puisqu'on est passé, donc, comme on vient de dire, d'un extrême à l'autre, hein, de tout est esprit ou tout est corps. Eh bien, je propose d'écouter la question, c'est justement sur ce sujet-là, la question du philosophe et physicien, philosophe des sciences et physicien, Étienne Klein.
Bonjour Frédéric de Vignemont. Est-ce que c'est parce qu'en France, nous avons été très fortement influencé par la pensée cartésienne qui sépare le corps et l'esprit, que nous ne cessons d'osciller entre les deux comme si on ne parvenait pas à les associer dans une sorte d'intrication impossible à défaire. Par exemple, est-ce que le souci du corps aujourd'hui qui est mis en avant ne correspond pas à une forme de mépris que nous aurions pour l'intellect ?
Que pouvez-vous répondre à Étienne Klein?
Alors, c'est une question très intéressante. Alors, déjà, la première chose, c'est que ce pauvre Descartes, on le dit toujours, qui méprise le corps, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il est celui qui a aussi dit que, justement, qu'il y a une union très particulière entre l'esprit et le corps. Donc, il l'affirme haut et fort. En même temps qu'il disait, OK, il n'y a que la pensée dont je suis sûre, il dit en même temps, le corps et l'esprit forment une union unique. Ce n'est pas comme un pilote dans son vaisseau. C'est quelque chose d'autre.
Descartes disait ça. Sauf que ça, on l'a pas retenu de Descartes.
Descartes disait ça. Et ce qui était très intéressant, c'était à l'époque, il y avait la princesse Élisabeth de Bohême, qui, à une époque où les princesses faisaient de la philosophie, donc avait une grande correspondance avec Descartes, lui dit, bon, vous avez beaucoup parlé des premiers composants où tout est l'esprit, mais cette histoire d'union et du corps, là, avec l'esprit, vous ne nous en parlez pas beaucoup. Et il avait répondu, oh oui, votre grandeur, vous êtes si intelligente, et blablabla, vous avez tout à fait raison, mais j'avais peur que les gens comprennent pas vraiment ce que je voulais dire dans la première. Donc, conclusion, j'ai un petit peu ça, glissé ça sous le tapis. Bien sûr, il ne l'a pas formulé sous ces termes-là. Mais en fait, oui, pour lui, c'était tout aussi important. Ça faisait partie des grands faits fondamentaux, cette union du corps et de l'esprit.
Donc, on s'est trompé sur cette manière. Quand on dit cartésien, ça veut dire...
En fait, on a privilégié un aspect qui vraiment sa théorie...
Existe dans la philosophie de Descartes.
Voilà, tout à fait. Mais il y avait ce deuxième composant qui est beaucoup plus difficile et sur lequel il dit très peu de choses. Et peut-être parce que c'est justement très difficile de comprendre cette union du corps et de l'esprit. Pourquoi mon rapport à mon corps, moi en tant que sujet conscient, est différent que le rapport que j'ai, par exemple, avec ma bicyclette. Qu'est-ce qui va faire la différence? Les deux me permettent de...
Comment avons-nous conscience de nous-mêmes et de ce corps qui est avec nous tout le temps
Et qui est nous. Et ça, c'est ce rapport unique qui est très difficile à comprendre. Et on a beau vivre chaque seconde, chaque milliseconde avec ce corps.
Dans notre corps, avec notre corps.
Essayer de l'expliciter, c'était un petit peu l'enjeu de ce livre. Mais c'est difficile.
Et c'est là où peut-être les sciences cognitives apportent des choses à la philosophe que vous êtes. Enfin, élargissent le champ de compréhension.
C'est là où je trouve que tout est bon à prendre d'une certaine manière. Donc moi, j'aime beaucoup la littérature. Donc il y a beaucoup de choses sur le rapport au corps qu'on peut trouver dans des grands textes littéraires. C'est aussi beaucoup de choses qu'on peut trouver récemment dans les sciences cognitives. Mais c'est très, très récent. C'est vraiment, je dirais, depuis... disons une quinzaine d'années. Avant, il n'y avait rien. Et d'un coup, ces 15 dernières années, on s'est aperçu que la conscience de soi, et plus particulièrement la conscience de soi corporelle, c'était quelque chose qu'on pouvait tester en laboratoire.
C'est ça, qu'on pouvait mesurer, finalement, voir un peu comment...
On pouvait changer des petites variables et voir l'effet que ça allait faire et regarder. Et c'est vrai que d'un coup, s'est ouvert ce champ d'exploration qui n'existait pas beaucoup avant, parce qu'avant tout, ce qu'on avait, mais qui était déjà très intéressant, c'était l'étude des patients. Parce que la plupart des sciences sur le corps s'intéressaient, disaient, bon, ben là, quand on veut savoir, quand tout va bien, le corps, on l'oublie. Quand il ne va pas bien, c'est la douleur, c'est là où on en a le plus conscience.
Et il nous interpelle, le corps.
Et il nous interpelle. Mais c'est quand, en plus, dans ces troubles, comme par exemple ces patients qui ne reconnaissent plus leur corps comme étant le leur, c'est là où on se dit, bon, ben alors, ça soulève plein de questions. Et ce truc qui est totalement intuitif, cette main, c'est la mienne, qui est tellement intuitive qu'on n'imagine même pas que ça puisse être remis en cause. Là, d'un coup, on se pose la question, mais alors, qu'est-ce qui me permet de dire que cette main est la mienne ?
Et comment ça émerge, cette
Et comment ça émerge chez les enfants, comment ça émerge? Est-ce que c'est quelque chose qui va se retrouver dans d'autres espèces animales? Comment ça fonctionne?
Et on le comprend un peu mieux, vous le comprenez un peu mieux, comment la conscience du corps émerge? On sait que le petit, il se pense totalement inclus dans la mère.
Alors pendant très longtemps, le seul test de conscience de soi, c'était de se regarder dans un miroir, on mettait une tache sur le fond reconnaissait qu'il y avait se frotter le fond en faisant sa tâche face au miroir, c'est qu'il avait compris que c'était lui. Donc ça, c'était le test. Mais ça, c'est quelque chose que les enfants n'arrivent pas à faire avant l'âge de 18 mois, voire 2 ans. Donc c'est très tardif. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'un enfant, par exemple un bébé, quand on lui montre devant lui ses jambes en train de gigoter, donc il a 6 mois, il y a tout ce que ça fait, globalement, c'est gigoter des jambes.
Hein. D'accord.
Et s'il voit que les jambes qu'il voit devant lui ne gigotent pas en synchronie avec les siennes, en fait, ne sont pas exactement synchrones avec ses propres
mouvements,
eh bien, il va réagir montrant des signes de surprise.
Donc, il a conscience de...
Donc, alors, comment caractériser ça? C'est très difficile, mais ça veut dire qu'il y a, à un niveau, il y a une reconnaissance de ces jambes que je vois doivent correspondre aux jambes que je suis en train d'agiter. Et ça, on peut se dire, bah, c'est un tout début de conscience de
conscience
soi. Et
de
ça,
soi.
C'est à 6 mois.
Ah, c'est ça, dès 6 mois. Alors, vous dites vous-même aussi dans cet ouvrage, hein, je rappelle son titre, « Désenchanter le corps aux origines de la conscience de soi », dont nous avons un exemplaire à vous offrir, à vous faire gagner, chers amis autrices et auditeurs. Vous dites, Frédéric de Vignemont, que vous avez entamé ce travail philosophique, cette ouverture sur la conscience du corps et cette ouverture aux sciences cognitives, parce que vous étiez vous-même un peu... Alors, je ne vais pas le dire comme ça, mais t'es un peu embarrassée avec votre
maladroite.
Corps. Maladroite, hein.
On peut le dire.
C'est ça, Miss Catastrophe, je connais aussi, hein, donc j'ose vous poser la question.
Éternellement, je me cogne dans les tables, je me découvre des bleus en me disant, mais où est-ce que je me suis encore cognée? En se disant, je devrais savoir depuis le temps quand même ma taille, ma mensuration.
Oui, c'est ça.
Et pourtant, éternellement, je ne le fais pas. Et je suis un peu, effectivement, comme les adolescents. Les adolescents posant des questions vraiment intéressantes. Il y a très peu de recherches sur les adolescents, alors qu'en fait, c'est un moment très intéressant.
Par rapport à son corps, à la conscience de son corps qui change.
Il y a le corps qui change. Alors, bien entendu, il va y avoir beaucoup de littérature
bien sûr.
Le côté sexuel. Mais juste le simple fait de grandir, c'est aussi bête
bien
que
sûr.
Ça. Et on s'aperçoit pourquoi l'adolescent est si maladroit. Et bien, c'est parce qu'on pourrait croire il grandit, il a... Ça devrait évoluer au fur et à mesure dans son esprit. La représentation qu'il a de lui-même devrait se calibrer par rapport à ça. Mais en fait, non. Ça se fait par palier. Donc, au lieu de... Donc, conclusion, on va dire, je caricature, disons que tous les 6 mois, il va mettre à jour sa représentation de lui-même. Sauf qu'en 6 mois, il a le temps de grandir. Et donc, conclusion, la représentation qu'il a de lui-même correspond jamais exactement à son corps. Ce qui fait que si on a une représentation fausse et erronée de soi-même... Eh bien, la manière dont on va programmer ses actions, et c'est là où on voit que l'esprit et le corps marchent vraiment ensemble.
Mais oui.
Et ben c'est à ce moment-là, c'est que d'un coup, on se trompe, on calibre pas bien ses mouvements parce qu'on n'est pas exactement à la taille qu'on pense avoir.
Extraordinaire. C'est pas simple hein, d'être dans son corps finalement. Alors comment en avoir conscience? On va avoir une pleine conscience peut-être hein. On continue de s'interroger autour de cette question insoluble et c'est tant mieux. L'esprit est-il dans le corps ou le corps est-il dans l'esprit? À l'écoute de votre choix musical qui ne doit rien au hasard car c'est une nouvelle chanteuse qui monte, un peu plus qu'une adolescente mais pas loin. Zao de Sagazan et ce superbe morceau « Mon corps ».
Je t'oublie trop, je te regarde pas là où il faut. Mon corps, j'examine tes bords, je vois ton dehors que tes défauts. Je t'en veux encore.
Mon corps, Zao de Sagazan sur RFI. Pourquoi ce magnifique choix musical, Frédéric de Vignemont ?
Les paroles tombent tellement juste parce que moi, c'est vrai que j'ai envie de dire il faut oublier son corps. Malheureusement, le corps ne se laisse pas toujours oublier. Qu'il y a beaucoup, et je ne veux pas négliger toutes ces personnes qui sont mal dans ce qu'on dit, être mal dans sa peau, c'est littéralement être mal dans sa peau. Voilà,
bien
c'est
sûr,
ça.
Bien sûr.
Et que. Et donc, ça évoque toutes ces personnes-là où, effectivement, le rapport au corps est compliqué. Alors, ce n'est pas forcément des personnes qui sont malades ou qui ont quelque chose, mais pour autant, ce rapport chez eux ne se fait pas dans la facilité. Et c'est là où je pense que les techniques de méditation ou de yoga peuvent aider. Mais de nouveau, dans ces cas-là, il faut savoir ce qu'on cherche. Si c'est retrouver, se reconnecter avec son corps, alors ce moment-là, bien entendu.
Se reconnecter avec son corps.
Oui.
Donc, au fond, reconnaître que l'esprit et le corps, c'est lié totalement.
Oui. Mm-hmm. Ou si on cherche plus, et c'est là où ça devient plus problématique.
Quand vous dites chercher plus, un peu comme dans les... Parce qu'autrefois, les spiritualités, les religions, les ascétismes, oui. Justement, on prenait l'ascétisme et l'oubli total
oui.
du corps.
Oui, c'est ça. Mais à l'inverse, là, moi, je m'étais retrouvée dans une situation à discuter avec quelqu'un qui dirigeait une secte, ou qui en était un membre actif, en tout cas. Et donc, j'étais curieuse, parce qu'on entend beaucoup parler, mais on a rarement des expériences directes. Et j'avais... Et donc, il m'avait dit, et j'avais donc écouté ce qu'ils... leur speech, et il y avait ce côté, oui, alors vous allez vous concentrer sur votre respiration, etc., etc. Et puis, grâce à ça, vous allez améliorer votre compassion, et grâce à ça, vous allez gagner plus d'argent, et grâce à ça... forcément, alors c'était dans le contexte d'une secte, donc je ne dis pas que...
Bien sûr, mais attention aux dérives qui peuvent se faire...
Qui existe, qui devient un vrai problème de santé publique. Donc, je sais qu'en santé publique, en France, entre autres, ils sont maintenant vigilants sur les offres qui sont faites, par exemple, de stages de méditation, où en fait, ça devient un petit peu des arnaques. De nouveau, c'est certains cas, bien entendu.
C'est ça, ça peut devenir des arnaques, des charlatans, ou alors au contraire, pour augmenter ses performances, enfin, des choses qui sont au-delà de...
Qui ne s'appuie jamais ni sur des sciences médicales, donc savoir ce qui est bon à la fois pour le corps, parce que ça peut être décider de vous faire un régime draconien à base uniquement de graines, alors qu'en fait, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Ou ça peut être effectivement vous épuiser dans des techniques méditatives qui ne sont pas appropriées, parce qu'à la fin, le but du jeu, ils ne sont pas basés sur une connaissance du corps. Moi, je pense que tout ça, c'est intéressant quand ça s'appuie sur une véritable connaissance du corps, de ce que peut le corps, de ce que ne peut pas le corps. Et ce qu'on en revient sur le tout départ, la citation, si tu veux, tu peux. Non, ça ne marche pas, effectivement, je suis d'accord.
C'est ça, attention, ça ne marche pas. Alors par contre, vous le disiez, quand il s'agit de se reconnecter à son corps, là, ce qu'on appelle la pleine conscience, la méditation, peut être intéressante. Je propose justement d'écouter alors un psychiatre, pour le coup, le plus connu en France probablement, Christophe André, pionnier et grand passeur de la méditation de pleine conscience, que ce soit à l'hôpital, comme à la maison, en librairie, où il a des grands succès. Librairie et même à la radio chez nos confrères de France Inter.
Dire que la méditation est un entraînement de l'esprit, c'est reconnaître que notre seule volonté ne nous suffit pas pour changer. Nous le savons pour notre corps, mais souvent nous l'oublions en ce qui concerne notre esprit. La méditation est ainsi un acte d'humilité. On ne peut pas décider comme ça de courir plus vite ou plus longtemps, d'être plus musclé, plus souple du jour au lendemain. Nous allons devoir pour cela nous entraîner, faire des footings, du yoga, de la musculation. Et il en va de même pour notre esprit. Nous ne pouvons pas décider comme ça de moins stresser, d'être plus calme, d'avoir plus de recul, plus d'attention. Si nous voulons progresser dans ces domaines, nous allons devoir là aussi y travailler régulièrement, accepter pour progresser l'idée d'une culture mentale à l'image d'une culture physique. Et la méditation, c'est exactement cela, un entraînement de l'esprit.
Alors la méditation est-elle un entraînement de l'esprit ? Sur le corps, avec le corps, ou du corps sur l'esprit?
Ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'il y a beaucoup de différents types de pratiques
de
méditation. Moi, celles qui m'ont intéressée dans ce livre, c'est principalement celles qui sont centrées sur le corps, ce qu'on appelle quelquefois la méditation interoceptive ou corporelle, et qui vraiment s'appuient énormément sur ce travail, sur la respiration, sur le balayage corporel, sur toutes ces notions-là, et qui est très, très... corporel, incarné, on va dire.
Oui, c'est ça.
Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir, je m'appuie sur les travaux d'une chercheuse allemande, en fait, franco-allemande Tanya Singer, qui, elle, qui est très impliquée dans la méditation, donc elle est tout à fait, voilà, elle est très impliquée aussi, elle travaille avec le Dalai Lama, avec Mathieu Ricard, avec tout ça, mais qui s'est dit, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas un sujet scientifique, donc Mathieu Ricard lui-même ayant été à l'origine un scientifique,
bien sûr.
Donc elle travaille avec lui, et qui a fait avec un grand nombre de participants, sur plusieurs mois, pour tester les effets des différents types de méditation, les effets bénéfiques. Et entre autres, on cherche tous dans la méditation, hein, souvent, c'est être moins stressé. Mm-hmm. C'est souvent ce qui préoccupe le plus les gens. Et donc, elle est allée voir si ça fonctionnait selon différentes techniques. Et la technique corporelle, en fait, les participants décrivaient qu'ils étaient moins stressés au bout de plusieurs mois. Donc, on se dit, parfait, c'est un succès. Mais elle mesurait en même temps les signaux associés au stress dans le corps. Parce que le stress, ça laisse des traces sur le corps. Ça a des signaux physiologiques très marqués. Et là, elle s'est aperçue que ça n'avait absolument pas changé.
Donc, ils avaient l'impression d'être moins stressés, mais ils ne l'étaient pas.
Voilà, enfin, c'est ça. Mais leur corps l'était toujours autant.
Leur corps l'était toujours autant. Ce qui veut dire qu'on...
Et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, et à côté de ça, les techniques qui étaient plus sur le côté régulation des émotions, qui étaient plus quelque chose de cognitif, d'intellectuel, avaient plus de succès sur le stress. Elle a publié ses résultats, elle s'est retrouvée à recevoir des lettres d'insultes de compagnies privées qui vendaient des stages de méditation très incarnés, et qui, pour les compagnies ou ce genre de choses, pour le team building, pour tout ça, et qui d'un coup lui disaient « mais vous n'avez pas le droit de dire ça ».
Comme quoi, c'est très compliqué, en fait, d'essayer de comprendre comment ça agit. Et vous avez employé le mot émotion. Alors, on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de nos auditeurs, un peu partout, hein, à Kinshasa, au Burundi, au Cameroun. Et en gros, les questions tournent autour du fait que l'esprit a besoin du corps, hein, ça, évidemment, et que l'esprit est plus grand que le corps. Mais on nous demande aussi des explications, justement, sur le sens de ces mots. Émotion, esprit. Corps et même âme. Frédéric de Vignemont, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à faire le tri là-dedans ?
C'est pas facile, si on restait plusieurs heures peut-être. Mais pour faire bref, je pense que déjà on peut prendre le cas des émotions parce que c'est vraiment un endroit où corps et esprit sont liés entre vraiment intimement. Parce qu'il n'y a pas d'émotion, les émotions sont toujours un petit peu associées avec un vague sentiment corporel. Il y a une sorte de vécu corporel, souvent, alors surtout quand elles sont intenses.
C'est vrai.
Mais
elles sont accompagnées de
sujets.
Quand on a peur, voilà. Voilà.
Alors, certaines personnes vont dire qu'en fait, les émotions, ce ne sont qu'une forme de lecture de ces signaux du corps. Donc, il y avait William James au 19e siècle qui disait « On ne pleure pas parce qu'on est triste, on est triste parce qu'on pleure ».
Ah oui, donc, en inversant complètement.
En inversant. Et ça, ça a été repris plus récemment par ce neuroscientifique Antonio Damasio, qui a d'ailleurs des livres traduits chez Odile
Absolument,
Jacob.
Absolument, et qu'on a reçu également.
Voilà. Et qui disait un petit peu la même chose. Alors, le problème, bien entendu, c'est que si c'était vraiment que la lecture des signaux du corps, comment on explique que les personnes qui ont des lésions de la moelle épinière, qui n'ont plus accès, donc des lésions très fortes, qui n'ont plus accès à ces signaux corporels, continuent à avoir des émotions.
Même donc, s'ils ne pleurent pas, mais ils sont tristes.
Mais voilà. Donc ça veut bien dire que la relation est plus compliquée, mais c'est vraiment un endroit où voilà, il y a une sorte d'interface complexe de savoir à quel point les émotions ont besoin du corps, dépendent du corps, s'accompagnent toujours avec le corps, à quel point... Mais en même temps, une émotion, c'est sur le monde. C'est vous êtes triste parce que quelqu'un qui vous est proche, il est arrivé un accident. Vous n'êtes pas triste parce que votre estomac se contracte. Donc, c'est ça où il faut arriver à combiner les deux. Et c'est là où les émotions sont un sujet tout à fait fascinant.
Et on est toujours sur l'équilibre, au fond. Toujours sur ce va-et-vient entre le corps qui exprime ce que l'esprit pense et l'esprit qui parfois exprime aussi ce que le corps ressent. Enfin, c'est tout le temps dans des espèces de va-et-vient comme ça.
Oui, mais parce que alors il y avait cette idée de, on pourrait imaginer un cerveau dans une cuve, quelque chose qui flotterait et voilà, désincarné. Et c'est vrai que on se dit bon bah ça, est-ce qu'on serait exactement les mêmes personnes?
On pourrait exister juste un esprit sans corps.
Alors
on y viendra,
l'idée,
hein,
alors mais... dans l'idée, ça serait qu'on serait que ça serait comme dans le film de la Matrix, on serait connecté avec un ordinateur qui nous nourrirait d'une simulation du monde, donc notre esprit serait quand même nourri d'input sensoriel et on aurait l'impression d'agir dans ce monde. Donc on est certes un cerveau dans une cuve, mais on a toute la simulation sensorimotrice, corporelle, de vivre et d'interagir dans un monde. Et donc ça, est-ce que ça pourrait fonctionner ? D'une certaine manière, j'ai envie de dire que oui, probablement. À quel point on a besoin du corps lui-même, de chair et du sang où on a besoin juste d'une simulation de corps, d'avoir l'impression d'agir.
Vous ouvrez un gouffre, là, ma chère Frédérique de Vignemont. Je propose de continuer dans ce sens-là, autour de cette question. Quelle conscience avons-nous de notre corps propre et nous, les humains, mais pas seulement, faisons donc un petit pas de côté autour de cette question philosophique du corps-esprit et de l'esprit dans le corps, avec une éthologue et cétologue qui s'est mise, elle, dans la peau des dauphins, de ces mammifères marins qui ont conscience de leur corps, hein, qui ont passé le test du miroir et autres. Écoutez donc la question de Fabienne Delfour, qui était récemment notre invitée. Elle est pour vous.
Pour moi, la question de l'incarnation est extrêmement importante. Je considère que ce corps est un véhicule au monde. Donc, en fonction du corps que l'on a, que l'on vit, que l'on est, on va avoir accès à certaines informations ou d'autres. Et avoir un corps de dauphin, on voit bien, donne accès à certaines informations que ce corps humain ne me permet pas. Et donc cette question du corps, moi je l'utilise énormément et je ne vois pas comment faire l'impasse sur cette question du corps. Et je ne fais pas de distinction entre le corps et l'esprit, c'est vraiment ce corps qui m'aide à mettre du sens sur ce qui m'entoure, qui me permet d'accéder à ces informations-là. Et j'aimerais bien avoir des réponses sur quelle pourrait être sa vision du corps des dauphins et de cette sensorialité corporelle.
Que pouvez-vous répondre?
Alors, je m'y connais pas assez, il faudrait qu'on discute ensemble. Mais c'est vrai que le corps, c'est une source d'opportunités et de contraintes sur notre manière de percevoir le monde. Donc, c'est
évident. Et opportunités et contraintes, c'est les deux.
Hein. C'est les deux, oui, parce qu'on a les yeux que nous avons, on n'a pas la même vision qu'une mouche qui peut voir beaucoup plus que nous, ou pour un dauphin dont je connais... Donc c'est évident qu'on a des choses qui vont être radicalement différentes, et que le fait que cet accès au monde et cette interaction avec le monde, qui dépend du corps, va avoir une telle influence que ça va former ou calibrer, on va dire, la manière dont nous allons penser. Après, dire ça, ça ne veut pas dire que... Donc forcément, j'aurais tendance à penser que chez le dauphin, il va y avoir des choses qui vont être fondamentalement différentes de l'être humain parce qu'ils ont des corps différents. Après, ce qui est intéressant, c'est justement, vous disiez, le dauphin est capable de se reconnaître dans un miroir.
Donc, il a conscience de son corps.
Mais ce qui est fascinant,
comment,
c'est qu'il est capable d'avoir la même chose que nous.
C'est ça.
Malgré toutes ces différences, il y a des choses qui vont être en commun.
Et c'est ça qui vous fascine.
Et moi, c'est vraiment c'est les deux. C'est vraiment et les différences. Alors, moi, je ne pense pas qu'il faut essayer de ramener tout à un modèle anthropocentrique, tout sur humain. Modèle humain. Je pense que ça, ce n'est pas une question intéressante. Il faut reconnaître les différences. Et quand on pose la question, est-ce que, par exemple, le dauphin est intelligent? Pourquoi pas? Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il est intelligent comme un homme?
C'est pas
la bonne question. Après, il y a aussi quand même le côté fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être communes. Et c'est là où, quand on regarde ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste, on va s'apercevoir qu'en regardant la manière dont nous avons tous subi les mêmes contraintes à la fin, quand on a des corps différents, mais on subit toutes les mêmes contraintes, qui est de savoir se nourrir, se reproduire, et éviter de se faire manger par quelqu'un d'autre.
C'est ça. En gros, c'est ça nos contraintes à tous les vivants.
Ça, à tous les niveaux. Et que comment, selon les environnements, ça va nous avoir formés sur certaines choses qui vont être fondamentales.
Et former corps et esprit, pour le coup.
Former corps et esprit, tout à fait. Et que ce n'est pas seulement le corps qui va avoir subi l'influence de la sélection naturelle, mais ça va être aussi l'esprit. Et ça va être les deux ensemble.
Et ça va être les deux ensemble aussi, quelque chose qui est très intéressant dans votre démarche et dans votre livre, c'est aussi le rapport aux autres. Parce que ce que vous reprochez aussi à cette, après avoir mis l'esprit en avant, aujourd'hui on met le corps en avant, c'est un espèce de repli sur soi finalement. Or vous dites, quand on oublie un peu son corps ou quand on se rend compte que les deux sont liés, on peut s'ouvrir aux autres parce qu'il y a le reste du monde qui interagit avec nous et nous interagissons avec le reste du monde.
Oui, c'est ça. C'est que il y a son propre corps, puis il y a le corps des autres.
C'est ça aussi.
Il faut. C'est là où quelquefois je trouve que il y a des dérives dans les discours quelquefois autour des pratiques de méditation pour en revenir, parce que si on reprend les origines, c'était plutôt l'oubli de soi. C'était pas du tout, au contraire...
Dans ces pratiques de méditation, dans la spiritualité orientale...
Exactement, c'était tout sur l'oubli de soi. Alors que là, on a l'impression que l'oubli de soi, cette partie-là, c'est comme des cartes. Il y a une certaine partie du message qu'on met à la trappe et qui paraît aussi importante. Et que, de nouveau, le travail de méditation, très bien, si ça va aussi avec un oubli de soi, un travail sur la compassion, toutes ces choses qui accompagnent une philosophie plus orientale.
Au fond, il s'agit constamment, enfin, ou enfin, de réconcilier le corps et l'esprit, de comprendre que les deux marchent ensemble et qu'on ne peut pas s'intéresser qu'à notre nombril, en gros, hein, qu'il soit dans le cerveau ou qu'il soit dans le corps.
C'est ça, il y a des limites au nombril. Hein. Donc, on ne peut pas aller très, très loin si on ne s'intéresse jusqu'à ça. Mais ça, je pense que tout le monde, d'une certaine manière, le sait. C'est juste qu'il peut y avoir certains excès, quelquefois. Et je pense, de nouveau, c'est plus dans certains discours, certaines compagnies qui cherchent, que vraiment les personnes qui pratique de la méditation, je ne pense pas que c'est souvent aussi les personnes que vous allez voir les plus impliquées dans les luttes écologiques, dans les... Donc, c'est, il ne faut pas oublier ça, c'est que aussi ces personnes-là, c'est aussi des personnes qui peuvent être très ouvertes vers le monde.
Oui, c'est ça. Donc il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit au fond de revenir sur finalement cette grande question philosophique qui est le souci, enfin le souci de soi, mais qui ne doit pas être, être obnubilé par soi-même, souci de soi et souci des autres, voilà, en fait, c'est ça.
Oui.
Et pour ça... ça se passe entre les deux. C'est en lien entre notre esprit et notre corps.
Oui, et ceux des autres.
Et ceux des autres. N'oublions pas ceux des autres. Autour de la question du corps et de l'esprit, on continue de s'interroger sur nous-mêmes et sur les autres à l'écoute de ce très beau morceau d'Arcade Fire, « My body is a cage ».
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I My mind holds the key. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. But my mind holds the key. I'm standing on the stage of fear and self-doubt. It's a
My body is a cage, Arcade Fire sur RFI. Autour de la question, le corps est-il dans l'esprit ou l'esprit dans le corps? Nous sommes en compagnie de la philosophe Frédérique de Vignemont qui vient de publier « Désenchanter le corps, aux origines de la conscience de soi » aux éditions Odile Jacob. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, vous êtes d'ailleurs nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et on vous en remercie car cette question existentielle, philosophique, spirituelle sur soi, le corps, corps, l'esprit, la conscience de soi et du corps est aussi renouvelée aujourd'hui par l'irruption du virtuel dans nos vies. La communication à distance, désincarnée, si courante, mais aussi par les intelligences, l'irruption des intelligences artificielles, sans corps donc, avec qui, à travers lesquelles, nous allons de plus en plus échanger d'esprit à esprit et sans corps ou presque. Qu'est-ce que ça change? Alors avant de vous laisser répondre, Frédéric de Vignemont, je propose d'écouter l'éclairage d'Alexei Greenbaum, physicien quantique et philosophe qui s'intéresse à ces questions d'IA, notamment dans son dernier essai intitulé « Paroles de machine ». Écoutez son éclairage.
Quand je me tourne vers l'histoire de la pensée de Mélan, d'accord, en quoi est-ce que tous les ascètes, quelle que soit leur religion, etc., ne s'intéressaient pas tellement au corps? Bah, le corps, il est corruptible. Le corps, même pour les gnostiques, vous voyez, il est mauvais par définition, hein, le corps. Alors, à travers les siècles, qu'est-ce qui reste? Parce que les corps meurent, hein, disparaissent, hein, se décomposent. Alors, reste le mot, hein, reste le langage. C'est pour ça que je m'intéresse au système d'intelligence artificielle qui travaille avec le langage. Parce que c'est quelque chose qui va rester, hein, qui n'est pas corruptible comme les molécules du corps biologique. Donc oui, enfin, moi je pense que le corps c'est intéressant ici et maintenant pour le bien-être ici et maintenant. Mais quand on regarde à travers le temps, à l'échelle des générations et des dizaines de générations, qu'est-ce qui va rester? Bah, ce ne sont pas les corps qui vont rester, ce sont les mots.
Et voilà, ni l'esprit ni le corps, mais les mots qui vont rester. Qu'en pensez-vous, Frédéric de Vignemont, dans ce monde futur désincarné de science-fiction qui nous fait un peu peur quand même?
Alors, je vais revenir encore à Descartes. C'est là où... quand même, qui était un philosophe assez extraordinaire et qui, à son époque, a déjà anticipé les problèmes d'intelligence artificielle.
Les machines. Hein.
Les machines, les automates de l'époque. Et il disait, il y aura toujours deux manières de reconnaître qu'un automate n'est qu'un automate et pas un être humain. Et il disait, même s'ils arrivent à prononcer des mots, eh bien, en fait, ils n'en comprendront pas le sens. Et c'est toute la question que nous avons de nos jours.
Absolument.
Alors avec ChatGPT,
voilà, les agents conversationnels.
Les agents conversationnels, c'est à quel point, certes, il y a un alignement de mots, mais les mots sans signification derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, ChatGPT, c'est quoi? C'est un système qui se base sur des régularités statistiques. Uniquement ça. Donc, il va enchaîner les mots qui vont toujours ensemble. Mais est-ce que ça veut dire qu'il comprend ce qu'il veut dire? Donc, si on lui apprenait, par exemple, une chose qui serait totalement absurde, on retombait s'il n'était nourri que de surréalisme.
Un ChatGPT surréaliste, ah oui, ça c'est
promesse. Un ChatGPT surréaliste. En fait, il ne s'apercevrait pas du tout qu'il tient des propos qui n'ont ni queue ni tête.
Il n'a pas de conscience.
Alors, il n'a pas de conscience. Il n'a même pas de capacité d'autocorrection parce qu'il ne va pas chercher à viser la vérité. Alors, si vous prenez, quelquefois, les gens l'utilisent maintenant comme Wikipédia, mais ce n'est pas du tout la même chose. Wikipédia, ça cherche à être le plus près possible de la vérité. Après, de temps à autre, on vous dit, il y a des petits marqueurs qui vous disent « nous ne sommes pas totalement sûrs de cette information », etc. ChatGPT, lui, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse. Il n'y a aucun contrôle, ça n'a pas été programmé pour, ça n'a pas été entraîné avec ça comme critère. Donc, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'à la fin, vous fassiez un like et c'est tout. Mais ce like ne correspond pas du tout forcément à « c'est quelque chose de juste ».
Mais en même temps, ces intelligences artificielles, c'est toute la question de la conscience. Est-ce qu'à un moment... puisque vous nous l'avez dit au cours de cette émission, au fond, même sans corps, on pourrait peut-être avoir une conscience, puisqu'on peut aussi simuler dans notre esprit, qu'on peut aussi jouer à penser que... et d'ailleurs, les sportifs, par exemple, peuvent s'entraîner mentalement aussi, ça fonctionne très bien. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, dans le meilleur ou le pire des mondes possibles, des machines qui aient une forme de conscience? Mais conscience de quoi? De
leur corps? Surtout, vous avez dit une forme de conscience. C'est ça. Et c'est ça où c'est intéressant. C'est, de nouveau, c'est comme avec la question des dauphins. De vouloir dire est-ce que les dauphins ont la même forme, peuvent avoir la même forme de conscience que nous, c'est une question qui, d'une certaine manière, n'est pas intéressante. C'est plutôt intéressant de découvrir tout ce qui est différent, qui les rend uniques. Et je pense que pour l'intelligence artificielle, de vouloir à tout prix que ça soit la même forme de conscience que nous...
Ça n'a rien à voir, en fait.
Pour l'instant, déjà, on en est très très loin.
Bien sûr.
Quelconque forme de conscience, mais même... on peut imaginer, en tout cas si on se concentre plutôt sur l'intelligence plutôt que la conscience, que est-ce qu'ils sont intelligents comme nous? Est-ce qu'on a raison de parler d'intelligence artificielle? Certaines personnes protestent en disant non, elles ne sont pas vraiment intelligentes. Mais on peut aussi dire, plutôt que de dire qu'elles ne sont pas vraiment intelligentes, on peut juste dire oui, elles ne sont pas vraiment intelligentes comme les humains. Et donc, elles ont une forme d'intelligence qui leur est propre, mais qui n'est pas forcément le même moule que le nôtre. Et pour moi, j'aime beaucoup, alors on a parlé des dauphins, mais aussi les poulpes. Il y a comme ça ce philosophe Peter Godfrey Smith qui a écrit un livre sur les poulpes.
Sur l'intelligence extraordinaire des poulpes, leur intelligence,
et voilà,
l'intelligence poulpienne.
Tout à fait, et sur leur forme de conscience, et qui montrait bien à quel point ça avait évolué de manière totalement différente de l'être humain. Même quoi de l'être humain, du mammifère. D'une grande partie du règne animal, ils ont quelque chose qui leur est propre et qui est... Et on peut dire qu'il y a une forme d'intelligence. Ils échouaient à tous les tests, les poulpes.
À nos tests humains, etc.
Mais ils arrivaient quand même à s'échapper de leur cage, de leur aquarium.
À leur manière à eux.
À leur manière à eux, et montrant une motivation, parce qu'ils n'étaient pas motivés. Le test absurde que l'on faisait passer, ils n'étaient pas motivés pour les faire. Mais quand il s'agissait de s'échapper, ils étaient beaucoup plus motivés. Et là, devenaient très malins.
Mais est-ce que ça veut dire, du coup, Frédéric de Vignemont, et on en revient à cette question qui vous occupe, à notre question titre, esprit-corps, corps-esprit, l'un est-il dans l'autre, que les deux sont là aussi encore complètement liés? C'est qu'à telle forme vivante ou à tel corps se relie tel esprit. Vous parlez de ça pour les humains.
Oui. Dans le cas des poulpes, c'est très clair qu'ils ont moins ce côté centralisé que nous avons. Il y a tout dans le cerveau, puis on a un certain système nerveux périphérique. Mais voilà, les poulpes, c'est beaucoup moins centralisé que ça.
Ils ont des petits cerveaux partout. Des petits esprits partout.
On peut dire qu'ils ont des petits esprits partout. mais de nouveau, c'est essayer de revenir au modèle humain.
Oui, bien sûr.
C'est ça que c'est toujours tort, très dangereux. Et pour l'intelligence artificielle, qui, elle, est vraiment désincarnée. Alors certains vont vous dire que ça sera juste le jour où elle sera incarnée. Alors pas forcément dans un corps biologique, mais un corps artificiel. Donc là, on parlera de robots et non plus de Siri, on va dire. À ce moment-là, c'est ce moment-là où il pourra peut-être y avoir une émergence de la conscience. Mais ce n'est pas clair, effectivement, que le corps soit nécessaire pour leur intelligence. On peut imaginer qu'il y a d'autres formats, on peut être un peu plus créatif quelquefois, on se met des œillères en disant de ce qui est possible ou pas possible.
Soyons créatifs, mais prenons soin de notre corps, de nous-mêmes, des autres, de notre esprit, ça on est d'accord là-dessus.
Ça, je pense qu'on aura du mal à ne pas être d'accord.
Merci infiniment d'être venu en direct, non pas répondre, mais partager justement toutes ces réflexions, ces interrogations avec esprit, j'ai envie de dire avec cœur et avec corps, allons-y. Je rappelle le titre de votre essai paru aux éditions Odile Jacob et dont nous avons un exemplaire à faire gagner à nos auditeurs, désenchanter le corps aux origines de la conscience de soi. Et si vous voulez être les heureux gagnants ou gagnantes, n'oubliez pas, chers amis, de nous préciser votre adresse postale. À bon entendeur, merci infiniment, Frédéric de Vignemont.
Merci beaucoup.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h temps universel et vous abonner bien sûr à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, nous vous donnons rendez-vous lundi pour nous interroger cette fois-ci sur les plantes, les arbres et les fleurs qui nous poussent aussi à la réflexion en compagnie du jardinier philosophe Gilles Clément pour un éloge des plantes vagabondes et de la botaniste Katia Astafiev qui nous fera découvrir comment les plantes aussi font leur cinéma entre science et science-fiction, histoire de se mettre au vert, chers amis auditrices et auditeurs. Merci pour votre curiosité.